contre-taf.
À contre-taf.
Les jeunes veulent travailler, mais ça manque d'opportunités et il faudrait aussi de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
À contre-taf.
À contre quoi ?
À contre-taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Ah là, ça rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Toi, tu vas un peu à contre-taf. Sur Radio Campus 93.9 FM.
Faire le travail qu'on choisit et qu'on aime, c'est un luxe pour toute la vie. Allez-y, faites ce que vous voulez faire. Lancez-vous.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Il est 20h04, c'est Francesca à l'animation et vous êtes sur Radio Campus Paris pour l'émission À Contre-Taf. Nous sommes le 2 décembre et c'est notre deuxième émission de la saison. À Contre-Taf, l'émission qui remet le monde du travail dans le bon sens. Le thème de ce soir, droit au travail, l'autre face du contrat. On vous l'a sans doute déjà répété cette phrase. Vous devez respecter vos obligations. On demande aux salariés d'être ponctuels, performants, respectueux des règles. Mais il y a une question qu'on pose beaucoup moins, c'est est-ce que vous connaissez vos droits ? En France, on a l'un des codes du travail les plus détaillés au monde, mais aussi, paradoxalement, l'un des systèmes où les travailleurs connaissent le moins leurs droits. La dernière enquête vraiment centrée sur ce sujet date de 2016. Elle montre que moins d'un salarié sur 10 dit connaître le code du travail et que seulement 46% ont déjà ouvert ou même feuilleté un code du travail. Autrement dit, la société des salariés ne connaissent pas leurs droits. Depuis, plusieurs rapports et études sont venus confirmer la même chose dans les métiers les plus précaires, chez les saisonniers, dans l'aide à domicile, chez les jeunes qui débutent, la méconnaissance des droits est massive et parfois dramatique. Le droit du travail, souvent, ne le découvre que quand ça va mal. Le droit devient alors un outil de survie. Là, il devrait être un outil d'émancipation. Et pourtant, connaître ses droits change beaucoup de choses. En entreprise, il n'y a pas que d'un côté les devoirs et de l'autre côté les droits. Il y a un équilibre. Et c'est pour cela qu'un contrat, un pacte, et quand une moitié connaît seulement sa part, l'équilibre n'y est pas. Les salariés ont-ils les moyens de connaître vraiment leurs droits ? Nous tenterons de répondre à cette question aussi. Et si on veut un jour parler d'autonomie, de responsabilité ou même de performance, il faudra commencer par là. Au vu de l'épaisseur du code du travail, ce soir nous n'allons pas tout traiter. Nous n'allons pas régler tous les litiges, ni passer en revue tous les articles et toutes les exceptions. Mais ce qu'on peut faire ensemble, c'est poser les bases, clarifier quelques points essentiels, vous donner des repères. Oui, il y a des devoirs au travail, mais il y a aussi des droits.
À Contre-Taf, sur Radio Campus Paris.
Allez, va bosser, feignant.
Le boulot, c'est le boulot.
Au programme de cette émission, est-ce que vous connaissez vos droits ? À l'interview, ce sera Hugo avec notre invitée Ophélie Chazot, consultante RH et RRH externalisée pour TPE-PME chez OCS RH. L'horoscope des métiers, les entreprises qui recrutent et les salons du moment, ce sera avec moi. Le Flash Info, le tour de l'actualité du monde professionnel avec Hugo. Rubrique Innovation, nous accueillerons Pedro Canali, entrepreneur et ex-top 50 du poker français et nous parlerons gamification. Enfin, nous terminerons comme à chaque fois avec la chronique humoristique de Hugo. Vous écoutez À Contre-Taf, on est en direct jusqu'à 21h sur le 93.9. Merci pour votre fidélité, restez avec nous. Et tout de suite, notre interview, et c'est avec Hugo et notre invité, Ophélie Chazot. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Ophélie.
Bonsoir.
Alors, comment allez-vous ?
Très bien,
ça
merci.
Va.
Et vous ?
Mais merci à vous, vous allez nous éclairer sur plein de points sur
J'espère.
Le code du travail. Mais tout d'abord, que faites-vous dans la vie ?
Eh bien, ça c'est une vaste question. En fait, je suis consultante RH et donc RRH, donc responsable ressources humaines à temps partagé. Donc en fait, je travaille une journée dans une entreprise, une autre journée dans une autre entreprise pour les aider en fait à structurer leurs ressources humaines, à s'organiser au mieux et à pas avoir trop de problèmes. problème RH.
C'est quoi le rôle du RH ? Qu'on a un peu ce stéréotype que le RH, il vire des gens. C'est le stéréotype oui. Général. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que pas du tout ? Est-ce qu'il y a d'autres implications ?
Alors, j'ose espérer que c'est pas juste ma mission de virer des gens. D'abord, on les recrute. On espère avoir du monde qui veut venir travailler dans des entreprises qui ne sont pas toutes mauvaises, avec des dirigeants pas tous mauvais. Il y a aussi des bonnes personnes qui veulent faire les choses bien. Mon métier, c'est pas donc que de virer des gens, hein, loin de là. C'est surtout en fait d'essayer de trouver la meilleure adéquation pour que les travailleurs se sentent écoutés et travaillent dans les meilleures conditions, mais que les employeurs aussi aient le meilleur retour sur investissement en faisant travailler des gens correctement.
Très bien. Et comme Francesca l'a dit un instant, ça revient à ma question. Apparemment, on aurait un des codes du travail les plus compliqués au monde. C'est vrai, ça ?
Si peu. S'il n'y avait que le code du travail, en fait. Il y a le code du travail, il y a toutes les conventions collectives, il y a les accords de branche. Pouf, voilà, c'est la France, un pays très administratif.
Un pays très administratif. Et on allait justement demander aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils connaissaient du code du travail.
Alors, selon vous, combien de jours de congés payés par an on a le droit en France ?
25.
Est-ce que l'employeur peut refuser des congés ?
Je pense que non, mais il y en a qui le refusent quand même en fonction du débit de travail qu'il y a.
Peut-on poser congé quand on veut ou faut-il une autorisation ?
Je pense qu'il faut qu'il soit validé.
Est-ce que les congés non pris sont perdus ?
Non, je pense pas. Je pense qu'en fin de contrat, par exemple, c'est payé.
Est-ce que vous savez quand on acquiert ces congés ?
Si j'ai bien compris, tous les mois, c'est 2,5 jours.
Alors, il n'y a pas que des bonnes réponses. Je vais vous poser un petit peu les mêmes questions. Alors, à combien de jours de congé on a droit par an en France ?
Alors, au lieu de parler de jours, parce qu'en fait, ça va dépendre des entreprises, on va parler de semaines. Donc, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an, dès lors qu'on travaille toute l'année. Après, s'il y a des absences, ça va se déduire, en fait.
C'est déduit. Si on est absent un jour, ça enlève un jour. Comment ça marche ?
Non. Alors, en fait, chaque mois, pour tout le temps travailler, on acquiert donc des jours. Si vous êtes en jour ouvrable, on acquiert 2,5 jours. Si on est en jour ouvré, donc du lundi au vendredi, c'est 2,08. Pour qu'à la fin, en fait, on ait soit donc 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables, mais 5 semaines, quoi qu'il arrive.
Du moment qu'on a posé nos congés, est-ce que l'employeur peut changer les dates ?
Alors, dans les faits, normalement, quand c'est acté, c'est acté. Après, s'il y a des problématiques d'organisation de travail et avec l'accord du salarié, hein, il ne peut pas prendre une décision unilatérale dans ces cas-là, il peut demander si on peut déplacer quelques jours ou voire annuler cette semaine-là, par exemple, et la repositionner ailleurs.
Donc à partir du moment où les congés sont payés, il faut obligatoirement l'accord du salarié.
Dès qu'ils sont validés, si on doit changer, il faut l'accord du salarié.
D'accord. Et est-ce qu'on peut poser des congés quand on veut ? On sait qu'il y a des professions comme la restauration, il y a des saisons pleines l'été. Est-ce que justement ça dépend des branches ?
Alors,
ces congés.
Les congés pour les poser, en fait, ça dépend effectivement les secteurs d'activité avec les conventions collectives. Mais dans l'idée, en fait, logiquement, on est censé pouvoir poser les congés quand on en a envie. Mais il y a des périodes, effectivement, où c'est pas possible. Et donc l'employeur peut refuser des congés qui n'ont pas encore été validés, enfin vraiment avant que ça soit validé.
Donc ça, c'est pas écrit noir sur blanc sur le contrat que la personne ne pourra pas prendre de congé à telle date ?
Alors, sur un contrat, normalement non, enfin, sauf s'il y a vraiment un cas très très particulier. Par contre, dans les contrats, il peut y avoir marqué que l'entreprise, par exemple, ferme sa société tous les étés au mois d'août et que du coup, ça déduit des congés pour les salariés.
Donc ça, c'est obligatoire ?
Que ça soit indiqué ?
S'il y a 4 semaines où il ferme en août, c'est obligatoire que ça soit décompté des congés du salarié.
Alors, ça ne sera pas forcément marqué dans le contrat, on est d'accord. Ça peut être une décision qui se fait tous les ans, mais de façon différente en fait, au niveau des dates. Et bien évidemment, les congés seront décomptés. En fait. Ils considéreront que ce sont les congés de l'employé. Pardon.
Très bien. Et à la fin de l'année, est-ce que si on n'a pas pris des congés, ils sont perdus ?
Alors, on ne marche pas en année civile, hein, par contre, sur les congés payés. On marche en année décalée. En fait, c'est une période de référence. Donc, logiquement, c'est du 1er juin, par exemple, de 2025 jusqu'au 31 mai 2026. Si, au mois de mai, en fait, on n'a pas normalement posé tous ces congés, ce qui ne devrait pas être le cas si on a un bon manager, si ce n'est pas posé, d'après le code du travail, ça serait perdu. Mais après, dans les faits, souvent les employeurs accordent une flexibilité. Par contre, si c'est du fait de votre employeur que vous n'avez pas pu poser vos congés, là, il y a quand même des démarches à faire.
Et quelles sont ces démarches?
En fait, ils ne peuvent pas être perdus, parce qu'en fait, ça fait partie des obligations de l'employeur.
De vous accorder ces congés que...
En fait, on a des congés payés, il y a les 5 semaines, quoi qu'il arrive, ça doit être posé. Si, par exemple, vous n'arrivez pas à les poser, et j'espère que ce n'est pas le cas, parce que ça fait beaucoup quand même de travailler une année à temps plein, dans ces cas-là, en fait, c'est l'employeur qui bloque la prise des congés, donc pourquoi il vous les ferait perdre, en fait? Ce n'est pas logique. C'est un droit.
Vous dites que ça fait beaucoup de travailler une année à temps plein, mais la première année, on est censé ne pas avoir de congés, non, si je me rappelle bien?
Alors, en fait, on acquiert quand même des congés. Et après, il y a des entreprises qui ont du mal à accorder des congés par anticipation. Donc, en fait, avant la fin de la période de référence. Néanmoins, il y a des jurisprudences comme quoi on peut les poser.
Donc, et à combien de jours de congés on a droit par an?
Bah, du coup, le
par semaine, excusez-moi. Par mois, oula, par mois. Excusez-moi, c'est l'hiver, c'est compliqué.
Alors, par mois, c'est soit 2,08, soit 2,5. En fait, ça dépend si on fonctionne en jour ouvré ou
d'accord,
en jour ouvré.
D'accord, donc on revient à cette histoire de jour et d'année décalée. On est parti aussi demander en savoir plus aux gens sur le temps de travail.
D'après vous, c'est quoi la durée légale du travail par semaine?
Bon, je dirais 35 heures, mais c'est la réponse facile. Après, ça dépend, ça peut aller jusqu'à un certain nombre. 41, puis après, en fonction des conventions collectives, ça peut aller jusqu'à 52, il me semble.
Est-ce que vous savez combien d'heures supplémentaires on peut faire au maximum?
Il me semble que ça va jusqu'à 62, je crois, avec beaucoup de dérogations.
Est-ce qu'un employeur peut vous demander de rester plus tard sans prévenir?
Non, il faut qu'il y ait un délai. Normalement, c'est 3 jours. Mais après, pareil, convention collective, ça dépend.
Faut-il obligatoirement une pause dans la journée et combien de temps?
C'est 20 minutes toutes les 6 heures. Il n'y a pas d'obligation de pause déjeuner, mais il y a quand même une obligation de pause.
Peut-on travailler plus de 6 jours par semaine?
Non. Normalement, non. Normalement, c'est 6 jours.
Alors, beaucoup d'erreurs, en effet, mais c'est un sujet qui est très méconnu en France. On a un public qui est pas mal étudiant, qui nous écoute ce soir. Et le temps de travail, c'est quelque chose d'assez flou en France, finalement. On ne sait pas très bien jusqu'à combien on peut pousser, jusqu'à combien on peut aller, combien on peut déborder en heures. Alors, première question, quelle est la durée du temps de travail légal en France par semaine?
35 heures.
35 heures. Et on peut aller au-dessus?
Bien évidemment. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec des contrats où vous êtes à 37h30, 39 heures, parce que du coup, vous allez pouvoir acquérir en fait des réductions du temps de travail, donc des RTT, des jours de congés supplémentaires, si vous voulez, en fonction de cette durée.
Mais il y a des branches où ce n'est pas forcément le cas. La restauration, on est en 39 heures, par exemple. Ça nous donne plus de jours de congés?
Ça donne des heures sup.
D'accord.
En fait, je pense que c'est ça. Soit c'est vous avez des heures sup, soit vous avez des RTT. En fait, ça dépend comment l'entreprise va fonctionner. Comme d'habitude, en fait, dans le droit du travail, 35 heures, c'est la durée légale. Au-delà de de 35 heures, en fait, on passe en heures supplémentaires. Et bien évidemment, on n'a pas le droit de faire trop d'heures supplémentaires dans l'année. On a un contingent d'heures supplémentaires, donc on ne peut pas excéder de 220 heures.
Mais je suis un peu étonné, parce que je reviens sur la restauration, excusez-moi. Mais
c'est un cas particulier.
C'est un accord de branche. Donc, parce qu'en 39 heures,
c'est une convention collective différente.
D'accord. Donc là, parce qu'en 39 heures, ça me paraissait un contrat basique, justement. On n'était pas payé en heures supplémentaires au-delà de 35 heures, je crois. Ou alors je me trompe?
Alors là, il y a un problème. Ouais.
D'accord, il y a un problème.
Normalement, c'est payé en heures sup.
D'accord, il y a bien un problème.
Mais c'est récurrent, en fait, dans certaines activités où vous ne faites pas 35 heures, vous ne faites pas 37 heures, vous ne faites pas 39 heures, voire même vous pouvez excéder jusqu'à 44 heures et après sur une moyenne de 12 semaines. Faut pas trop jouer normalement sur les heures sup, mais il y a des occasions qui font que...
J'avais une question, et à quel moment on parle d'heures complémentaires? Parce que je crois qu'on parle d'heures.
Ah, les heures complémentaires sont sur les contrats à temps partiel, en fait. Quand vous faites moins de 35 heures, dans ces cas-là, vous n'avez pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires. Le taux de majoration, donc en fait, les heures supplémentaires sont payées plus que votre heure normale. Et en fait, les heures complémentaires sont également payées plus, mais au lieu d'être à 25%, elles vont être qu'à 10%. Et par contre, vous ne pouvez pas en faire beaucoup plus que 10% normalement de votre temps hebdo. Donc si vous faites 20 heures, vous avez le droit qu'à 2 heures complémentaires dans la semaine.
Alors du coup, si je comprends bien, en fait, donc on fait les heures supplémentaires sont majorées à 25%. Donc normalement, je suis sur le bulletin de salaire. Pour ceux qui font des heures supplémentaires, c'est que ça doit être bien
chronoté. C'est une ligne à part. Hein.
Voilà, il y a marqué 25%.
Il y a marqué le taux de majoration normalement.
Voilà. Mmh. Et
si c'est pas marqué, en fait, c'est juste le taux horaire qui est déjà plus élevé que le taux horaire de base.
D'accord, de 25%. c'est ça.
25% et 50% en fait, ça dépend aussi les heures.
D'accord. Donc c'est pour que pour que tout le monde prête attention si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui font des heures supplémentaires et les heures complémentaires, donc c'est 10% de plus les 25.
Non.
Non.
10%.
10%. C'est bon.
J'ai l'impression d'être au marché.
Non, mais et est-ce qu'on peut. Est-ce que j'avais vu, je crois, une loi où en France, on peut pousser, je crois, 2 semaines dans l'année ou 3 semaines dans l'endroit, aller plus haut que 45 heures, par exemple, par semaine?
Alors, on peut aller jusqu'à 48 heures, mais il ne faut pas que ça soit régulier. Et après, si on est à 44 heures, c'est une moyenne maximum sur 12 semaines consécutives.
Et est-ce que le patron peut choisir de nous faire faire plus d'heures et après de l'étaler dans l'année? Genre, on peut faire pendant 2 mois 39 heures semaine ou 45 heures et après, les mois suivants, on réduit.
Ça s'appelle la modulation. Donc en fait, ça existe, mais par contre, il faut bien que ça soit encadré, que vous ayez soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche, soit votre contrat qui le stipule en fait. Il ne peut pas le décider du lundi pour le mardi.
D'accord, ça. Donc justement, est-ce qu'un employeur peut nous demander de rester plus tard au dernier moment?
Il peut vous le demander. Après, vous pouvez le refuser.
D'accord. Non, c'est dans notre droit de refuser. Par contre, s'il le demande à l'avance...
Bah après, si c'est une période charnière et que vous êtes impliqué dans votre entreprise et que c'est quelque chose qui est possible pour vous, en fait, il n'y a pas de raison de refuser en soi.
Faut-il obligatoirement une pause dans la journée? Et alors, combien de temps? Et je sais que c'est chaque deux... Je sais pas. Chaque
6 heures, combien d'heures? 20 minutes.
6 heures, 20 minutes? Chaque 6 heures, 20 minutes.
Et non, si, au bout de 6 heures, en fait, il y a 20 minutes de pause. En fait, si vous travaillez 6 heures, il y a 20 minutes de pause. Après, quand vous travaillez la plupart du temps 7 ou 8 heures dans la journée, il y a 45 minutes à 1 heure de pause déj, du coup. Mais par contre, c'est pas payé.
Et la pause repas, elle est comprise dans ces 6 heures? Enfin, je veux dire quand...
Non. D'accord. C'est pas du temps de travail effectif, c'est une pause. Pardon. Donc, par contre, c'est obligatoire d'en avoir une.
D'accord.
Enfin, 20 minutes pour 6 heures de travail.
Est-ce qu'on peut travailler plus de 6 jours par semaine? Est-ce qu'on peut travailler plus de 5 déjà?
Alors...
Puisque je reviens là-dessus, il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Exactement,
la Cour de cassation,
en fait, il y a une jurisprudence là-dessus. Donc, de base, en fait, on considérait que quand vous êtes sur une semaine calendaire, du lundi au dimanche, vous avez chaque jour... 11 heures de repos entre deux prises de poste. Donc vous finissez à 19h le lundi. Le lendemain matin, vous ne pouvez pas commencer avant...
7h30.
C'est la question piège. Il y a 11 heures. Donc en fait, si on finit à 19h, on ne peut pas commencer avant 6h le lendemain matin.
D'accord.
Voilà, il faut absolument qu'il y ait ces 11 heures. C'est le repos quotidien en fait, entre deux prises de poste. Et après, en repos hebdomadaire, il doit y avoir 35 heures, pardon. On travaille 35 heures et il y a un repos de 35 heures. Donc en fait, souvent, il y a une journée de repos, par exemple, on va dire le dimanche, voilà, où on ne bosse pas, plus les 11 heures de repos quotidien, donc ça fait 35 heures. Là, la jurisprudence qui est ressortie, en fait, c'est qu'en vrai, on pourrait faire travailler une personne pendant 12 jours consécutifs, parce que c'est un repos, enfin, une journée, 35 heures de repos par semaine calendaire. Donc moi, je ne l'avais jamais vu avant, mais là, maintenant...
C'est-à-dire par semaine calendaire?
Et en fait, du lundi au dimanche.
Mais du coup...
Donc ça voudrait dire que, par exemple, la personne, elle est en repos le lundi, elle bosse du mardi au dimanche, et la semaine d'après, il lui donne son dimanche en repos.
Ouais. Et ça lui fait une journée de repos par semaine, finalement.
Et donc c'est possible?
Bah, c'est d'après, devenu possible. D'après les magistrats, oui.
C'est devenu possible, et on l'a su la semaine dernière.
C'est très, très récent, exactement, ouais.
Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale, c'est très intéressant. On revient juste après. On va écouter Sam Cooke avec le titre Wonderful.
World.
Wonderful World. Désolée, à tout de suite. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to
to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta.
Nous venons donc d'écouter Sam Cooke avec le titre Wonderful World. Et tout de suite, on reprend l'interview avec Ophélie Chazot et Hugo.
Oui, 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 on se retrouve pour parler code du travail, un sujet qui est très intéressant et très vaste. Alors, nous, on est parti dans la rue poser des questions aux gens. Et cette fois, on est parti leur demander qu'est-ce qu'ils savaient des arrêts maladie.
En cas d'arrêt maladie, sous combien de temps il faut prévenir l'employeur ?
J'imagine du coup à l'avance plutôt, c'est mieux. Mais je sais pas combien de temps on a de délai, enfin ça dépend des métiers peut-être j'imagine, si on est dans des métiers d'urgence ou pas. Et à part ça, non j'avoue je sais pas trop.
Est-ce qu'on peut s'absenter pour des rendez-vous médicaux au travail ?
Normalement il faut trouver des horaires hors taf de préférence, à part si c'est quelque chose de très grave j'imagine, ou de quelque chose qui relève de l'urgence.
À votre avis, est-ce que les retards répétés peuvent être sanctionnés ?
Oui, pas d'hésitation, mais je pense que ça dépend aussi de la sévérité de notre boss.
Peut-on s'absenter sans justification dans certains cas ?
Dans certains cas, je pense que si on accouche à la dernière minute, on n'a peut-être pas le temps de prévenir notre employeur, mais à part ça, je pense qu'il faut justifier tout le temps, non ?
Est-ce que l'entreprise peut refuser un arrêt maladie ?
Je pense si le document est falsifié. Non mais à part ça, je vois pas pourquoi, à part si les arrêts maladie sont très fréquents, mais normalement ce serait pas très légal si c'est justifié par un médecin.
Ah oui, j'imagine que l'accouchement à une minute, il est cause de non-travail. Normalement, mais avant, on doit arrêter un petit peu avant, je pense, logiquement.
Un petit peu un congé mater avant.
Mais... il existe logiquement. Alors, en cas d'arrêt maladie, justement, combien de temps avant faut-il prévenir l'employeur ? Est-ce qu'il y a un délai ? Mais au final, si j'ai la grippe le mardi soir, je lui dis...
Je sais pas, quand vous tombez malade, vous arrivez à le savoir à l'avance ou pas ?
Non, ouais, non.
Ouais, voilà. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes dans l'incapacité de vous rendre sur votre lieu de travail et que vous allez aller voir un médecin. Donc si vous vous sentez pas bien le lundi soir, mardi matin, quelques minutes avant votre prise de poste, vous prévenez comme quoi vous serez absent.
Alors il y a quand même plusieurs facteurs. Enfin, si la personne ne prévient pas, il me semble qu'il y a une, enfin, il va payer par l'arrêt maladie, enfin par l'assurance maladie, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors en fait, dans les entreprises, normalement, dans les règlements intérieurs, on demande aux salariés de nous prévenir dans les meilleurs délais qu'ils vont être absents. S'il y a une cause derrière de maladie, ils vont avoir un certificat de leur médecin, donc un arrêt de travail. C'est à donner le plus rapidement possible en fait, à votre entreprise. Et c'est surtout à envoyer dans les 48 heures à l'assurance maladie, donc la CPAM, qui est la CPAM qui est renseignée sur votre dossier médical à vous. Donc si vous habitez sur Paris, bah, ça va être la CPAM de Paris, sauf si vous avez continué à être domicilié chez vos parents en province. Et là, dans ces cas-là, ça sera la CPAM de la province, enfin du département concerné. Tout en sachant que si vous n'envoyez pas dans les délais, une première fois, la Sécurité sociale va vous dire « Ouh !» Avertissement, vous n'avez pas envoyé dans les délais. Deuxième fois, ça commence à être un peu pénible. Vous n'envoyez jamais vos certificats médicaux dans les délais. La troisième fois, ils peuvent aussi vous suspendre vos droits. Donc, vous n'aurez pas d'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc, vous ne serez pas payé pendant votre arrêt de travail.
D'accord. Indéfiniment ?
En fait, c'est eux qui décident après. Hein.
D'accord, ils prennent des sanctions.
Oui.
Et si on a trop d'arrêts maladie, est-ce que l'employeur, à un moment, peut nous virer ? Ou nous demander de partir ? Ou est-ce que...
Alors, non, j'espère pas.
Est-ce que si on est absent pendant un an pour arrêt maladie, l'employeur n'a aucun pouvoir, on est d'accord ?
Alors, en fait, c'est juste qu'après, il y aura une procédure pour visant une inaptitude en fait, au travail.
D'accord.
Mais ça, c'est en lien avec le médecin traitant, la médecine du travail, donc le centre de santé au travail.
Mais l'employeur, il peut, il me semble, contrôler le salarié s'il est vraiment... Enfin, s'il est vraiment, bon, si, on va pas dire s'il est vraiment malade, doutes. Mais s'il a des doutes, il peut faire contrôler par
Alors le contrôle, il pourra le faire, mais ça sera pas du tout comme le contrôle de la sécurité sociale. En fait, la sécurité sociale peut diligenter une enquête parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a eu, entre guillemets, une dénonciation ou quoi. Et après, c'est la sécurité sociale qui décidera ou non si elle suspend les droits de ce salarié. Par contre, si un employeur a des doutes, il peut demander une enquête, mais par contre, ça sera une enquête privée, et donc c'est assez frais, et c'est pas pour ça que derrière, il pourra prendre des sanctions contre son salarié. En fait, il pourra juste informer la Sécurité sociale, et qui prendra, elle, la décision derrière.
Et est-ce qu'on peut s'absenter du travail pour des rendez-vous médicaux ?
Alors, dans certains cas, oui. Dans la mesure du possible, si c'est parce que vous êtes malade, vous traînez une grippe, un truc, un machin, vous essayez de prendre votre rendez-vous médical, bien évidemment, en dehors de vos horaires de travail. Si vous n'avez pas le choix, parce que c'est le rendez-vous chez l'ophtalmo que vous avez pris il y a déjà plus d'un an et qu'en fait, les horaires sont toujours sur des horaires de travail, dans ces cas-là, soit vous avez anticipé, vous avez posé une demi-journée ou quoi. Sinon, vous voyez avec votre employeur comment c'est possible de s'arranger. Par exemple, partir une heure avant et vous rattraper, ou je ne sais.
On ne peut pas légalement le prendre sur du temps de travail et le compter comme du temps de travail.
Ah non, un rendez-vous médical personnel, ça ne sera pas du temps de travail. La seule exception qu'il va y avoir, c'est sur certaines pathologies, mais qui sont recensées auprès de l'assurance maladie, ou dans le cadre d'une grossesse. Vous n'êtes pas trop concerné, Hugo.
Pas du tout, non. Enfin, pas... Mais après, il y a le congé paternité aujourd'hui. Qu'est-ce?
Oui, ça c'est après, quand il sera là.
Non sans lien, et il existe depuis récemment, c'est le congé menstruel. Est-ce qu'il est appliqué en France? Est-ce que tous les patrons le connaissent? Est-ce que beaucoup de personnes le prennent ou est-ce que ça reste encore minoritaire?
Alors là, je ne l'ai jamais vu encore. Dans aucune des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, je ne l'ai jamais vu. Et on ne me l'a jamais demandé dans les sociétés pour les dirigeants pour lesquels je travaille.
Et vous pensez que c'est dû à quoi?
Parce que on n'est peut-être pas encore prêt en France.
À accepter de prendre le congé ou de donner ce congé-là, justement.
Oh, bah même d'en parler.
Non, c'est le jugement, du coup, qui est
dans ce cas. Je sais pas si c'est un jugement, en fait. Il y a certaines avancées qui sont encore compliquées dans le monde du travail.
Alors après, il y a des entreprises qui le font, et je pense qu'il faut le dire aussi. Je sais que... dans mon ancien emploi, j'étais chez Carrefour et ils avaient pris des mesures justement par rapport à ça. Donc c'est au bon vouloir de l'entreprise et aussi j'invite les salariés, puisque moi aussi je suis touchée par l'endométriose, donc de pousser un petit peu la porte ou passer par la fenêtre pour tenter de mettre en place ces mesures que je pense très très importantes.
Mais dans tous les cas, ce congé, il est mis en place dans chaque entreprise. Enfin, légalement, là, il existe partout.
Non. C'est pas quelque chose qui est obligatoire.
Ah,
c'est au bon vouloir des entreprises. Il y en a encore très peu en France qui le mettent en place.
D'accord, je suis encore à la masse. rien à voir. Est-ce que les retards répétés peuvent être sanctionnés?
Tout à fait.
Tout à fait. Oh, pardon, c'était une question fermée.
Non,
comment ils sont sanctionnés? Qu'est-ce que le patron peut faire?
Et au bout
de combien?
Alors déjà, je pense que vous aurez une réprimande verbale à un moment ou à un autre, sans parler de sanctions à proprement parler, où on va vous demander de vous reprendre un petit peu et d'arriver dans les horaires qui sont convenus, tout simplement pour ne pas désorganiser aussi soit votre service, soit carrément l'entreprise, hein, si c'est une petite entreprise. Après, les sanctions, dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous n'avez pas d'obligation d'avoir un règlement intérieur. Donc, en fait, il n'y a pas d'échelle de sanctions. Ça va souvent être un avertissement. Après, si c'est vraiment très, très, très compliqué, que vous ne respectez jamais vos horaires, que ça a vraiment un impact sur l'activité, dans ces cas-là, il pourra vous sortir, vous licencier. Et par contre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il faut avoir un règlement intérieur qui, là, va mentionner l'échelle des sanctions et donc ça sera assez encadré en fait.
On arrive bientôt à la fin de l'interview, alors une question un peu pratique. Si je suis employé, qu'il m'arrive quelque chose au travail, que je me fais virer, que je me sens pas respecté, qui je peux contacter? Comment est-ce qu'on contacte un syndicat par exemple?
Alors soit votre entreprise, effectivement il y a des syndicats et ils sont connus et dans ces cas-là vous savez si, vous savez qui c'est ou comment les joindre. Après dans les entreprises plus importantes, donc à partir de 11 salariés, il y a des représentants du personnel, donc le CSE.
Si c'est une petite, si c'est une boulangerie, si c'est un petit restaurant, si c'est un emploi extra par exemple qu'un étudiant fait, comment il peut faire?
Bah après, soit vous contactez des juristes, soit des avocats directement. Il y a des, il y a certaines associations qui ont des juristes qui peuvent vous accompagner là-dessus. Je pense que Google sera votre meilleur ami.
Très bien, merci beaucoup Ophélie Chazot. Je pense qu'on a fait plein d'informations et que les auditeurs sont maintenant un peu plus informés sur leurs droits et aussi sur leurs devoirs. Tiens.
Merci beaucoup, merci. Tout de suite, l'horoscope des métiers. L'horoscope des métiers.
C'est quoi ça ?
Salon et les secteurs qui recrutent. L'horoscope des métiers, forum emploi. Le vendredi 13 décembre, vous avez le forum emploi maths, pardon. Le forum emploi maths, écoutez bien, mathématiques, se tient le 13 décembre de 9h30 à 17h à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le 19e à Paris. C'est un salon dédié aux étudiants et diplômés de mathématiques en recherche de stage ou d'emploi avec des stands d'entreprises de formation et de quoi affiner votre projet pro. Salon de l'emploi également, l'emploi des femmes, et ce sera le mardi 16 décembre, deuxième rendez-vous. Donc un événement 100% tourné vers les femmes en recherche d'emploi. Le salon de l'emploi des femmes se tiendra de 9h30 à 16h. Écoutez bien, le 16 décembre 2025, toujours à la Cité des Sciences. C'est un forum organisé autour de l'insertion professionnelle des femmes et de l'égalité femmes-hommes, avec notamment la police nationale présente pour parler métier, concours et recrutement. L'entrée est gratuite. Et pour finir, je vais vous donner un numéro, donc le 0800 730 640, demandeur d'emploi, donc c'est le numéro de demandeur d'emploi en Ile-de-France, pour vous aider à trouver un emploi et s'insérer aussi dans le monde du travail ou se réorienter. La région Ile-de-France vous permet d'accéder à des formations professionnelles certifiées. Et ensuite, et vous vous donnez aussi des outils d'orientation à la recherche de formation sur mesure, par exemple. Et c'est la fin de cet horoscope. On se retrouve après une petite pause musicale. On écoute Monte Rosso avec le titre Yucachina. morceau avec son titre Yukashina. Et tout de suite, on retrouve Hugo, c'est le Flash Info. Le Flash Info, l'actualité du monde pro. Allez, un petit tour, Hugo.
Oui, bonjour et rebonjour à tout, enfin bonsoir plutôt. Le marché de l'emploi, alors qu'est-ce qui se passe? Mais il reste plutôt stable malgré un contexte économique incertain. En effet, c'est la guerre apparemment. Il y a des opportunités. Mais plusieurs secteurs continuent de recruter massivement. La santé, le bâtiment, le numérique, la logistique et bien sûr l'hôtellerie-restauration. Ces secteurs, ils souffrent de pénurie de main-d'œuvre, ce qui ouvre de vraies opportunités pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Le télétravail, eh bien, il reste largement installé dans les entreprises. Et oui, mettez vos petites chaussons et vous restez à l'appartement au chaud, c'est l'hiver. C'est bien pratique. 1 à 3 jours par semaine, cependant, pour beaucoup d'employeurs, cela réduit les trajets, améliore la qualité de vie et permet une meilleure gestion du temps. Pour certaines entreprises, cela s'accompagne d'un maintien ou même d'une légère hausse de la productivité. Donc, une bonne nouvelle au final. La formation professionnelle, eh bien, elle progresse fortement. En effet, de nombreux salariés, eh bien, ils se reconvertissent ou ils développent de nouvelles compétences, notamment dans la cybersécurité, dans les énergies renouvelables et dans les services à la personne et les métiers technologiques. Cette montée en compétences, eh bien, elle répond aux besoins des entreprises et elle prépare les travailleurs aux mutations à venir. Donc, formez-vous, hein, ça peut toujours être utile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais tout n'est pas positif. En effet, les tensions autour des salaires, elles restent fortes. L'inflation, elle continue de peser sur le pouvoir d'achat. Et de nombreux salariés estiment que les augmentations obtenues ces derniers mois ne compensent pas totalement la hausse du coût de la vie. Dans certains secteurs, le transport, le commerce, l'éducation, les syndicats dénoncent des salaires stagnants malgré des conditions de travail qui restent difficiles. Cela entraîne des conflits sociaux, comme aujourd'hui. Il y a une grève aujourd'hui, il faut en parler quand même. Et des appels à la revalorisation. Sujet sensible, un autre point de vigilance, la sécurité au travail. En effet, les accidents restent nombreux dans certains secteurs comme le BTP, l'agriculture ou la logistique. Les experts rappellent que la formation au risque, l'entretien des équipements et la prévention doivent rester prioritaires pour éviter les drames. Alors, s'il vous plaît, les patrons, s'il vous plaît, formez vos employés au risque, c'est très important. Dans le secteur privé, l'ambiance est très contrastée. Certaines entreprises investissent dans le bien-être au travail, modernisent leurs locaux ou revalorisent leurs salaires. D'autres sont critiquées pour leur méthode managériale, la pression sur les horaires ou le manque d'écoute du personnel. Le dialogue social reste donc un enjeu majeur pour stabiliser les équipes et éviter les tensions. En résumé, un marché de l'emploi dynamique, une organisation du travail en mutation et une montée en compétences généralisée, mais aussi des inquiétudes persistantes sur les salaires, les conditions de travail et la sécurité. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau point sur l'actu du taf.
Merci beaucoup Hugo, super, merci de nous avoir informé.
Super, motivé.
Alors je voulais juste rappeler un chiffre, vous en avez parlé tout à l'heure, on a parlé de la sécurité au travail, il y a eu 764 morts au travail en 2024. Je vais quand même le rappeler, la preuve, donc merci d'avoir, d'avoir dit aux employeurs voilà, de faire attention et de former à la sécurité leurs salariés. Et tout de suite, on retrouve Félix, on part sur l'innovation.
La Conf Interview, innovation métier.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ça innove à contre-temps.
C'est plaisir de travailler pour vous, on est heureux.
Merci. Merci patron, comme il dit, mais merci patron, vous allez, on va vous trouver des innovations. Alors, ça va être Félix, on va parler gamification avec un invité de marque. Félix, racontez-nous tout. Bonsoir.
Bonsoir Francesca, bonsoir Pedro Canali qu'on reçoit ce soir pour effectivement parler de gamification. Alors Pedro, laissez-moi vous introduire à nos auditeurs. Vous êtes un ancien professeur de salsa, ancien top 50 du poker français. Vous avez été aussi entrepreneur dans le milieu du conseil d'entreprise avec une particularité dans votre approche de la stratégie et du management. C'est l'utilisation de la gamification pour rendre plus agréable et motivante de nombreux stages dans le monde du travail et donc les employés les rendre plus efficace. Aujourd'hui, vous êtes CEO de Solveo, une entreprise de conseil pour dirigeants, mais vous êtes aussi co-présentateur du podcast Route avec Nicolas Lévy, dans lequel vous recevez des personnes qui ont une success story et décryptez leur succès. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la gamification et votre période d'entrepreneur, enfin en tout cas, ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat avec la gamification ?
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. La gamification, pour le dire très simplement, c'est mettre du fun là où il n'y en a pas. Donc on va prendre une tâche rébarbative, une activité qu'on n'a pas envie de faire, et on va essayer d'y incorporer du plaisir. Donc la définition un peu plus technique, c'est prendre des mécaniques de game design et les implémenter dans un environnement non-jeu. Donc ça peut être effectivement dans le milieu du travail où on n'a pas envie de faire suivre un certain processus, on n'a pas envie de remplir un certain outil, et on va piquer aux game designers, aux jeux vidéo, aux jeux de société, des mécaniques qui augmentent le plaisir, et on les met dans le processus ou dans l'outil, et ça va permettre aux gens de faire avec plaisir.
Vous avez des exemples concrets en entreprise de gamification
Bien sûr, bien sûr. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre à la base, ma toute première start-up, c'était une société de serious game. Donc on avait le directeur de la BNP, de la cybersécurité à l'époque, qui était bien embêté parce qu'il avait envoyé un faux lien avec un faux virus à tous ses employés, et 30% des gens avaient cliqué. Il avait fait une formation très classique à la cybersécurité avec un formateur qui était venu, qui avait expliqué toutes les bonnes pratiques. Et suite à ça, il avait envoyé un faux lien avec un faux virus et 30% des gens avaient cliqué. Donc il était désespéré. Tellement désespéré qu'il a fait appel à nous pour qu'on crée un jeu vidéo pour former aux bonnes pratiques de la cybersécurité ses employés. Et donc on s'est retrouvé à créer un jeu où il y a un hacker qui venait attaquer la BNP, et on devait enquêter pour le retrouver, et pendant l'enquête, on apprenait toutes les bonnes pratiques. Et les résultats ont été au-delà de nos espérances, et on a vu que beaucoup d'employés avaient réussi à augmenter leur niveau de conscience et les bonnes pratiques, à tel point que sur les centaines de modules de e-learning de la BNP, on était classé deuxième en popularité, je crois.
Et donc ça, c'est la première période d'entrepreneur dans la gamification. Et vous avez aussi une autre période avec Citizen un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous en
parler ? Oui, là, c'est un autre type de gamification. C'était plus tout à fait digital et c'était plus du software. C'était plutôt ce qu'on appelle la gamification humaine. C'était implémenter des mécaniques de game design dans les processus et dans les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça pouvait prendre la forme de séminaires un peu plus ludiques où on avait implémenté des mécaniques de game design à l'intérieur des séminaires. Ça peut être aussi dans l'accompagnement au changement. Ça peut être dans le management et dans l'innovation managériale. Voilà, il y a beaucoup d'applications. Il existe même, alors ça, on n'en faisait pas du tout, mais c'est un sujet qui est aussi vraiment passionnant. C'est mettre de la gamification dans la vie de tous les jours pour faire brosser les dents les enfants qui veulent pas se brosser les dents, pour faire prendre aux usagers du métro l'escalier au-delà de l'ascenseur en mettant des notes de musique dans l'escalier. La gamification, ça peut aller très très loin et ça peut vraiment changer les comportements et augmenter l'engagement et le plaisir de faire.
Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace, mais pour qu'on comprenne bien, le but c'est pas de remplacer le côté sérieux du travail, c'est pas, enfin dans le sens c'est pas de faire que du jeu. Le but c'est de d'implémenter une structure vraiment de jeu pour rendre plus efficace, et on voit que ça marche très bien. À quel point c'est répandu en France, étant donné l'efficacité de ce système ?
Comme beaucoup de disciplines, c'est à la fois extrêmement utilisé, mais sous-médiatisé, donc les gens n'ont pas vraiment conscience. Mais par exemple, et vous l'avez très bien dit, c'est pas forcément, à la fin, ça ressemble pas forcément à un jeu. Quand je prends LinkedIn, quand je prends Facebook, quand je prends les 500 sites les plus visités au monde, ils sont tous bourrés de mécaniques de game design. Par contre, on s'en rend pas compte, on n'a pas l'impression de jouer quand on est sur LinkedIn. Pourtant, les GAFAM et plein d'autres entreprises ont implémenté des mécaniques de game design, ce qui fait qu'on prend plus de plaisir. Des fois trop, des fois on est même un peu addict et on dort mal parce qu'on a passé 2 heures sans s'en rendre compte à scroller. Donc il faut faire attention, c'est à utiliser avec parcimonie. Mais globalement, ça ressemble pas à un jeu et pourtant on est engagé, on est motivé. Et quand c'est utilisé correctement, ça va vraiment augmenter le plaisir de faire et la productivité.
Et donc vous parlez de cette possibilité de l'implémenter dans notre quotidien. Par exemple, pour un étudiant qui voudrait être un peu plus efficace, vous avez des exemples de gamification qu'on pourrait mettre en place pour mieux réussir ses études ou en tout cas être plus efficace à l'école ?
Oui, bien sûr, il y a pas mal de choses qui sont faites. Alors souvent, on va demander à un copain de nous aider pour nous rewarder à certains moments. Mais par exemple, une mécanique qui est utilisée dans certains outils de gestion du temps de travail et gestion du travail et gestion de projet, qui est un peu le côté hasard de la gamification. Il y en a beaucoup des mécaniques qui sont utilisées, notamment dans les casinos ou dans plein de jeux. Le hasard, c'est un élément très puissant, très motivant. On va obtenir une récompense soit grâce à un ami, soit grâce à une petite roue qu'on peut fabriquer sur son bureau, uniquement de temps en temps, mais pas à chaque fois qu'on a coché une tâche. Donc si on a toute une tâche de 10 tâches, et ben à chaque fois on fait tourner la roue, et si on tombe sur la récompense, on y a droit, sinon on n'y a pas droit. Et ça va beaucoup aider la motivation, à tel point que certains outils de gestion de projet l'ont implémenté nativement, cette fonctionnalité à l'intérieur. Quand on coche une tâche, on a 50% de chance d'avoir une licorne qui traverse l'écran avec un arc-en-ciel ou des feux d'artifice, et des fois on n'a rien, et c'est vrai qu'on est un peu déçu. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça change énormément notre productivité.
Et donc ça serait plus des initiatives peut-être individuelles ou en tout cas à l'échelle de groupes d'amis ou de camarades. Est-ce qu'on peut aussi, enfin les universités, les écoles pourraient utiliser la gamification aussi?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et même à très grande échelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été encore une fois sous-médiatisées, mais le projet moi qui m'a le plus fait tomber de ma chaise, c'est un projet qui s'appelle Foldit, où les scientifiques bloquaient depuis des années sur replier des molécules pour essayer de soigner le cancer, enfin faire avancer la recherche contre le cancer. Et en fait, ils en ont créé un jeu, ils ont mis plein de mécaniques de gamification et ils ont fait jouer des communautés de joueurs. En deux semaines, ils avaient résolu un problème sur lequel ils bloquaient depuis plus de 50 ans. C'est la force de la communauté, la force de la gamification et la force de le hive mind, l'intelligence collective, c'est extrêmement puissant. Et quand on fait jouer des gamers sur un problème, il y a peu de choses qui leur résistent.
Et vous-même, avec votre Android Citizen, vous avez participé à installer de la gamification dans des universités ou dans le milieu de l'école?
Pas à grande échelle, malheureusement, mais par contre, on a fait des projets à grande échelle dans les entreprises, mais dans les universités, c'était beaucoup plus chirurgical. On est intervenu dans l'innovation managériale dans certaines grandes universités pour donner des cours et pour essayer de donner aux futurs managers des clés de management pour augmenter la motivation des équipes.
Très bien. Et je me demandais aussi, est-ce que ça peut vraiment marcher dans des endroits, enfin dans des environnements très très compétitifs, où en fait c'est, parce que je vous entendais dans un podcast parler du fait qu'à l'école ça pouvait être utilisé, notamment plus avoir ce travail de groupe et ce travail d'équipe, d'entraide, mais dans des endroits où on est vraiment en compétition, est-ce que la gamification peut aussi se mettre en place, enfin en tout cas au niveau de l'école, dans une structure, se mettre en place alors que c'est très compétitif?
Oui, c'est même un des leviers les plus efficaces, les rankings, les classements, les points, chez les étudiants, chez les vendeurs, c'est extrêmement utilisé, la gamification compétitive. Parce que on a certains d'entre nous, il y a plusieurs profils psychologiques de joueurs, et il y en a un bon quart qui sont des compétiteurs. Et ces compétiteurs, quand on a ça en nous, ben forcément c'est facile de nous motiver si jamais à la fin on accroche en grand dans les bureaux un classement du meilleur vendeur à la fin du mois, ça va marcher avec beaucoup beaucoup de gens. Il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Il y a des gens qui sont pas compétiteurs, qui ont pas cette flamme en eux. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de connaître les futurs utilisateurs de notre gamification.
C'est la fin de l'interview. Est-ce qu'on peut ça,
une dernière question,
un dernier
peut-être
mot sur, oui. Sur les dérives, parce qu'on parle du coup de tous les points positifs. Un petit mot sur des dérives potentielles de la gamification.
Ouais, c'est très. Faut faire très attention. La gamification est très utilisée dans les casinos, la partie hasard, bien sûr. Les GAFAM, on en parlait pour le côté. Relâcher de la dopamine, si on en relâche trop tout le temps, on tombe dans l'addiction. Tout ce qui est interdit au moins de 18 ans, généralement, c'est que la dopamine est impliquée. Et dans la gamification, la dopamine est impliquée et pourtant, c'est pas du tout régulé. Donc, c'est comme un marteau, ça peut servir à détruire ou à construire. La gamification, c'est pareil, on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. C'est un outil, il est neutre en soi. C'est intéressant de faire très attention, notamment dans les réseaux sociaux.
Bah, merci pour les conseils.
Merci beaucoup, merci Pedro Canali. Et toutes les entreprises devraient mettre en place pour pouvoir faciliter l'apprentissage de la gamification. En tout cas, je suis pour. Et on revient après cette petite pause musicale. On va écouter Despenser Lee Band avec le titre The Wolf. Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus Paris et il est 20h53.
Myself, no, baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection. This must be your lucky day, baby. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna leave.
when the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. I watch you burn this place. The ashes move that ass and raise a glass to how you love to misbehave, baby. Be my addiction, my prescription, baby. I got a condition, it must be your lucky day. I wanna jack it, smack it, you know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it, give you everything you want.
Oh, howling out your name, oh, look like champagne, oh, I'm gonna feel the vibe.
When the wolf comes out tonight.
Donc d'écouter The Spencer Lieben avec le titre The Wolf. Et tout de suite, nous allons passer à la chronique d'Hugo.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
Bonsoir, rebonsoir Hugo.
J'adore cette intro. Comment va mon petit pays ce soir? On galère pas trop avec ce froid, l'envie d'aller au travail diminue, le télétravail vous plaît de plus en plus. Attention tout de même, Francesca, à ne pas vous couper de tous liens sociaux. Et pour ça, une solution.
C'est vrai.
Et aller dans ton sac, c'est la raclette, Francesca. En effet, la raclette, c'est un peu une entreprise. Charlie amène la machine, c'est donc le patron. Marie-Glantine amène la charcuterie, ça fait d'elle la charcutière. Théophile amène le fromage aux truffes, ça fait de lui un mec du 17e. Et Amandine amène les patates, ça fait d'elle la madame aux patates. Et Brian amène le Malibu ananas, ça veut dire qu'il a rien compris au thème de la soirée. La raclette, c'est un peu une entreprise avec des managers, Francesca, en effet. Et comme dans toute boîte, c'est de ceux d'en bas qui trinquent en premier. Alors je pourrais vous faire un schéma avec la machine à raclette et que les petites casseroles sont les petits employés et que la plaque du haut, c'est le patron avec la charcutaille, mais j'ai la flemme. Le taux de chômage baisse, mais les conditions d'entrée se durcissent. Mon pote a mangé tout le fromage pendant que je faisais cuire des patates. Tiens, mais c'est moi qui avais organisé. Eh bien non, je me fais avoir. Nous sommes tous des humains en déficit de fromage. Voilà ce que je voulais vous dire. Francesca, il est temps de retrouver goût à la vie et pour ça, manger du bleu d'Auvergne, n'est-ce pas ?
La raclette, on a dit.
Oui, parce que le bleu d'Auvergne, ça va pas que la raclette. Non, ça ne va pas ensemble.
Et la raclette, c'est qui le patron ? Pardon, excuse-moi.
La raclette, c'est qui le patron ? Alors, le meilleur du meilleur, ça reste le Mont d'Or. Et le Mont d'Or, c'est une commune française pas très loin de la Suisse. La Suisse, vous vous rendez compte, Francesca, la Suisse ? Et oui, la raclette vient de Suisse. Et la Suisse, c'est quoi ? L'argent et le chocolat ? Ou l'argent du chocolat ? En tout cas, l'argent et l'argent, c'est de droite. Et c'est réservé au grand patron, ce qui fait que chaque patron est un peu une raclette. Voilà ce que je voulais vous dire. La raclette, c'est le capitalisme de Zurich. Me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir de chercheur de fonds pour déterrer chaque information nécessaire à cette chronique. Moi, j'ai jamais été en Suisse et je sais pas si j'irai vu le prix des activités, mais j'aime quand même la raclette et ce qui fait de moi peut-être la gauche molle, comme du fromage blanc. L'hiver est froid, mais la raclette est chaude. Travaillez pas trop, ça fait mal au dos. Laissez ça au gros barbu habillé en rouge qui passe par la cheminée. Si vous avez les moyens d'avoir une cheminée, bien sûr, à la belle affaire. Sur ce, j'ai fini de dire des conneries. Je vous laisse. Gros bisous à tous et attention au reblochon.
Merci beaucoup, Hugo. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. C'était Francesca, l'animation. Merci à nos invités, Ophélie Chazot, consultante RH et Pedro Canali pour la gamification et CIO Solveo. Merci à Hugo, co-animation, merci beaucoup pour l'interview et la chronique, très 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 drôle.
Ouais,
merci Félix pour la rubrique innovation, Simon pour la réal. On revient le mois prochain, ce sera le 27 janvier 2025, même heure bien sûr, même fréquence, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter cette émission en podcast et sur notre page Instagram à Contretaf. Très bonne soirée sur le 93.9 et à très vite.